Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà encore une guerre qui s'arrête. Est-ce qu'elle s'arrêtait vraiment? Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver la paix dans ce monde? Il y a des guerres qu'on a l'impression qu'elles ne s'arrêtent jamais. Et il y a des accords chez les gens, il y a des accords où on n'est pas d'accord sur un sujet. Alors à ce moment-là, on peut trouver une solution. Par contre, il y a parfois où les désaccords, ce n'est pas sur un sujet, c'est le fait même que l'autre il me dérange. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison réelle. Ça veut dire que l'existence de l'autre me dérange. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Parce que si c'est un problème de terre ou bien un problème quiconque, alors parfois on peut trouver une solution. Mais si le problème, c'est le problème de la personne, alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas on va trouver une solution, on va s'arranger par rapport à ça, mais c'est pas ça le problème est beaucoup plus profond. Et malheureusement, le sujet, on peut le voir autour de nous quand il s'agit d'une guerre. Alors il y a des guerres où il s'agit d'un problème tel et tel qu'on peut peut-être imaginer d'arranger, mais il y a des problèmes de fond. Et à ce moment-là, on ne trouve pas pour le moment une solution. Même si on peut s'arranger, on peut repousser le problème, et le problème est toujours là. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui, même si c'est un sujet qui revient, mais on est dans une paracha cette semaine, la paracha de la division, si on peut dire comme ça, la paracha des disputes. Cette paracha, elle s'appelle Korach. Et c'est devenu un symbole de dispute. Quand on n'est pas d'accord, mais une dispute qui tourne très très mal, alors à ce moment-là, c'est l'exemple, ça c'est le symbole de notre paracha. On va revenir à l'histoire, qu'est-ce que s'est passé exactement. Il y avait donc ce monsieur qui s'appelait Korach, qui n'était pas n'importe qui, c'était un grand homme. À tel point, il était un grand homme qu'il arrivait à toucher les meilleurs et l'élite de la communauté d'Israël pour pouvoir faire une opposition à Moshe. Donc alors c'est pas n'importe qui, parce que quand même il avait des arguments très très forts certainement pour pouvoir se mettre en opposition à Moshe. Après tout ce qu'on a vu, la sortie de l'Égypte, que Dieu il était avec lui, et l'ouverture de la mer, le don de la Torah, tout ça, après ça, on peut commencer à dire, se douter de Moshe, est-ce qu'il fait bien ou il fait mal, c'est parce que certainement qu'il faut avoir des arguments très très forts. Et donc, Korach, il avait ses arguments. Alors, dans notre paracha, lorsqu'on lit cette paracha, on a du mal à comprendre exactement ce qu'il veut. Effectivement, il y a il y a ce qui est marqué dans la Torah, mais quand on lit le texte de la Torah, ce n'est pas très clair qu'est-ce qu'il veut. Donc on a le Rashi qui explique d'une manière. Il y a d'autres manières d'expliquer qu'est-ce que finalement il le veut. Alors, l'idée générale, traditionnellement, on dit que d'une part, Korach, il était jaloux. Donc il était de la famille de Moshe, et on sait que dans la Torah, Si on revient quelques parachutes en arrière, on trouve qu'il y a des nominations dans la communauté. Déjà, il y a une différence entre tout le reste d'Israël et les Lévis, qu'ils ont une certaine valeur ou bien une certaine responsabilité que les autres ils n'ont pas. À tel point qu'on dit, vous devrez rester quelque part chez vous, et vous n'avez pas le droit de pénétrer, de rentrer dans l'univers de Lévi. Il ne faut pas travailler avec les Lévi, ça veut dire que c'est un travail qui est réservé aux Lévis, mais pas à tout Israël, sinon c'est très grave. Et les Lévis, ils ne doivent pas pénétrer dans le travail des Cohen. Et ensuite, on trouve que chacun a son rôle. Ensuite, on trouve qu'il y avait des nominations dans la famille, que qui va être responsable de la famille, alors il y avait tel et tel et tel. Et à un moment donné, on a sauté sur Korach, qui dans l'ordre de la famille, il était le plus proche. Il était dans l'ordre, on sait que la famille de Kehat, elle avait quatre fils. Donc Kehat, c'était un fils de Lévi. Tous les détails, on ne peut pas rentrer. Mais en tout cas, selon lui, selon sa logique, la prochaine, donc si on nomme, il faut nommer, il faut suivre la logique. Au niveau de la famille, il était le plus âgé, mais aussi il était le plus intelligent, il avait beaucoup de qualités. On l'appelle Pikeach. Au niveau de hiérarchie, il était extrêmement riche, beaucoup plus que les autres. La tradition nous dit qu'il a trouvé un des trésors que cachait Yosef lorsqu'il il était en Égypte. Donc Yosef, il a vendu beaucoup de nourriture pendant la famine. Donc il y avait une famine générale en Égypte et même dans la région, et tout le monde sont venus pour acheter. Donc Yosef, il a fait beaucoup d'argent, il l'a donné à Pharaon, mais apparemment il lui restait quand même, et il a caché ce trésor, et Korach, il a trouvé ce trésor. Selon la tradition, selon le Midrashim. En tout cas, de toute façon, c'était un homme de toute beauté spirituelle, de très haut niveau, et pourtant, ils sont que c'est lui qui doit être dirigeant. Donc, alors, ça, cet argument, on le trouve partout, des jalousies, qu'on trouve que pourquoi moi je n'étais pas nommé, ça c'est quelque chose de classique. Donc, on n'a pas besoin, on n'attend pas de le voir dans la Torah, d'une part. Mais d'une autre part, il y a des arguments différents. Et là, d'un coup, il dit qu'on n'a pas besoin des dirigeants. On est tous pareils. Alors là aussi, il faut comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est tous pareils? Imaginez-vous qu'il n'y aura pas des dirigeants dans un pays et que chacun se comporte d'une manière comme il le sent. Et peut-être c'est une bonne idée. On sait que c'est une très mauvaise idée. Il est marqué dans le Pirkei Avot, que certains le font encore entre Pessah et entre Shavuot, tous les mois d'été. Il y a une phrase là-bas, il y a une Mishnah là-bas qui dit qu'il faut prier pour le gouvernement, parce que sinon, si les gens ne vont pas avoir peur du gouvernement, et donc de police et de tout ce système, là, il va avaler l'autre vivant. Ça veut dire que même si je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, et même si que je trouve que le gouvernement est mauvais pour telle et telle et telle raison, mais quand même, le fait même d'avoir un gouvernement, c'est nécessaire, c'est basique. Parce que sinon, même si qu'ils ont des défauts, mais sans eux, les gens ils vont s'avaler vivants. Une autre fois, on a expliqué ce que ça veut dire vivant. En tout cas, il faut avoir des hiérarchies dans le système, dans tout système, parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, qu'est-ce que lui, il veut? Il veut détruire le système. Il veut que tout le monde soit pareil. Donc, on a du mal un petit peu à comprendre. Et il y a des explications, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'explications très intéressantes, très basiques, parce qu'on sait que la Torah, ce n'est pas seulement une histoire et comprendre le passé. La Torah, c'est aussi une histoire qui nous explique la vie humaine, la vie juive d'une part, mais la vie humaine d'une autre part. Des erreurs à ne pas refaire, ou bien comprendre la psychologie des gens, et comprendre, et quelque part, on est, pas seulement quelque part, on vit aujourd'hui à la lumière de la Torah, de ce qui s'est passé à l'époque. Donc alors, pour comprendre comment il faut vivre aujourd'hui, il faut absolument se baser sur la Torah. Il y a pas mal, pas seulement dans le système juif, il y a pas mal de ce qui se base sur la Torah, pas toujours, mais en tout cas, pour construire, pour comprendre, comprendre la philosophie, pour comprendre la psychologique humaine, et pour donc savoir comment réagir. Alors, même s'il y a beaucoup de choses, beaucoup de façons de voir les choses, mais il y a certaines qui expliquent que Korach, c'est vrai qu'il a des arguments. Il a des arguments, les arguments, on peut être d'accord, on n'est pas d'accord. Parfois, je suis d'accord, le lendemain, je change mon avis parce que aujourd'hui, je comprends autrement, donc je change. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord. Le problème, c'est quelqu'un qui, dans son identité, en fait, dans son ADN, il a cette notion de ne pas être d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que je vois telle et telle chose, donc je trouve que ce n'est pas bon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord par nature. Tout ce qu'on va dire, ils vont dire le contraire parce que de nature, on n'est pas d'accord. Alors, Korach, il était de sa nature de ne pas être d'accord, d'être opposé. Donc, il était pour ce que s'appelle les machloket, les différences. Alors, à ce moment-là, le reste des choses, c'est que des habits. On habille, puisque je ne suis pas d'accord. Alors, et parfois je ne suis pas d'accord avec l'un, et parfois je peux ne pas d'accord avec l'autre, mais toujours je suis dans le rang de celui qui n'est pas d'accord. C'est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que c'est positif de ne pas être d'accord ou c'est négatif de ne pas être d'accord? Alors, tout d'abord, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Et non seulement que ce n'est pas aussi mauvais que ça de ne pas être d'accord, le contraire, c'est la base du judaïsme de ne pas être d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a quelque chose d'intéressant qu'on dit, c'est marqué déjà dans les Zohar, mais ensuite il y a un livre qui s'appelle Noam Elimelech, qu'on l'apporte dans la Chassidoute, dans le Rabbi, dans ses écrits. On se base sur ce qu'il dit. Il dit que, pas dire, avant de dire ça, il faut dire que chacun, il a des qualités qu'il est né avec. Et il y a des qualités qu'on rajoute après. Ça veut dire que par des comportements, par des rencontres, par des différentes choses, on rajoute, on change, on fait évaluer des natures. Mais il y a des natures qu'on a depuis notre naissance, on est influencé par quelque chose d'autre qui était avant nous. Et il y a aussi au niveau, ça veut dire le monde autour de nous, influence sur l'un et sur l'autre, ça expliqué ailleurs. Donc, alors, il est marqué comme ça que Korach, sa base était sur ce qui était créé le deuxième jour de la création. On sait que Dieu, il a créé le monde dans 6 jours, le septième jour, il s'est reposé. C'est une phrase qu'il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, il a créé en 6 jours, et le septième jour, il le reposait. C'est un sujet à part qu'on parle, mais en tout cas, dans la Kabbale, on explique que c'est sûr que Dieu a créé le monde en 6 jours, mais en vérité, c'est plus que ça. Il a créé les 6 jours pour créer le monde. Donc, si on résume cette idée, ça veut dire que chaque jour, il a créé une notion qui rentre dans les 4 de ces jours. Donc, chaque jour, c'est une notion. Il aurait pu créer le monde en 1000 jours, en fait, il n'y a pas de limite puisqu'il s'agit de Dieu et on n'est pas encore dans le cadre, donc il peut faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il a créé 6 notions et chaque notion est liée avec un jour. Donc, il a créé le premier jour telle notion, les notions de la bonté, ce qu'il a marqué. Le deuxième jour, il a créé la notion de différence. Ça, encore, c'est un sujet qu'il faut expliquer, mais en tout cas, comme ça, il est marqué. Le premier jour, Dieu, il a créé Pluto, il a créé. Créer, ça veut dire donner, ça veut dire faire énormément de choses. Le deuxième jour, il a créé les limites. Là, on trouve cette notion qu'il a séparé entre les eaux de là-haut et les eaux d'en bas. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a cette notion de séparation. On trouve une séparation le premier jour, mais ce n'est pas la même chose. Donc, l'essentiel de séparation, on le trouve le deuxième jour. Donc, alors, on dit comme ça que le premier jour, Dieu a créé la notion de donner, de développer. Le deuxième jour, Dieu a créé la notion de séparer. Alors, encore une fois, c'est un sujet à revoir, c'est un long sujet, mais. Puisque c'est comme ça, il y a les gens qui ont plutôt les notions de créer, de faire. Il y a les gens qui sont plutôt les notions de séparer, la séparation. Alors, il a manqué que Dieu il a créé la séparation le deuxième jour. Il a créé encore, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un long sujet. Et le troisième jour, il a réparé quelque part la séparation. Donc, après séparation, il a fait en sorte qu'on va comprendre à quoi bon sort la séparation. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé la mer, les terres. Alors, on explique comme ça que la séparation est nécessaire dans notre vie. Parce que s'il n'y a pas de séparation, alors on ne peut pas vivre sans séparation. Et chacun, dans son domaine, il comprend que la séparation est nécessaire. Mais ça dépend de quelle séparation. Il y a des séparations qui sont productives, il y a des séparations qui sont le contraire, ils détruisent. Une séparation, parfois, on a l'impression que c'est mauvais, mais après coup, on comprend comment c'est possible. Donc, la séparation, c'est quelque chose de très, très positif, à condition qu'il arrive à son but. Grâce à ces séparations, on peut se développer ou bien les différentes choses que les séparations peuvent créer. Mais la séparation, ça veut dire qu'il n'a pas, la séparation, elle n'a pas un but pour elle-même, elle a un but pour pouvoir se développer, etc., etc. Encore une fois, c'est un sujet long qu'il faut expliquer. Donc là aussi, Dieu il a créé les différences dans la nature. Et cette différence était plutôt créée la deuxième chose sur le premier jour. On sait qu'on est différent. Les différences, on n'a pas deux personnes qui sont pareilles. Ça n'existait pas. De même qu'il est marqué dans le Talmud que les visages ne sont pas pareils, les opinions ne sont pas pareilles. Alors est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que le fait qu'on n'est pas pareil au niveau physique, c'est positif ou négatif? Oui, on peut dire comme si on peut dire comme ça, mais on peut dire que... Mais la vision juive, c'est oui, c'est très positif. Parce que comme ça, chacun a son identité, on n'est pas copié-collé. C'est pas ça, chacun a son identité. Alors pour avoir son identité, il faut avoir des différences. Parce que si on n'a pas... des différences, c'est comme parfois des animaux qu'ils sont copiés. Certainement qu'il y a quand même différence, mais pas autant que chez l'homme. C'est un copie, on fait la même chose plusieurs fois. Et le fait qu'il y a plusieurs, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte pour nous les humains. Mais par contre, pour l'humanité, chacun, il doit s'exprimer autrement. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Et encore, ça c'est un sujet qu'il faut développer, et ça se développe ailleurs. Donc alors, la séparation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais celui qui reste dans la séparation, finalement, il n'a pas compris. Parce que l'idée de séparation, c'est pour pouvoir créer une dynamique et un monde en paix. Ça veut dire plus qu'on sépare, plus qu'on peut après réparer et lier. Ça, c'est l'idée générale de cette idée. Donc, alors, nous, les humains, les gens intelligents, alors très, très souvent, les gens intelligents, on est tous quelque part intelligents, mais les gens qui sont, on va dire, ils utilisent beaucoup leur intelligence, pas seulement pour vivre sa vie, mais aussi pour réfléchir, pour étudier. Alors, c'est obligatoire qu'on ne soit pas d'accord. Ce n'est pas possible qu'on soit d'accord, parce que quand on réfléchit, et c'est ça la nature de la réflexion et du cerveau, de séparer, de ne pas être d'accord. Et cette idée, on le voit clairement dans la vie juive et dans le système talmudique, qu'on n'est jamais d'accord. Alors, si on n'est jamais d'accord, donc chacun il doit dire son opinion, chacun il doit développer son opinion. Et ça se développe de tous les sens, de tous les côtés. Chacun qui étudie le Talmud, il voit que chaque détail, chaque idée, finalement, en fait, chaque détail, ça dépend comment on l'étudie. On peut l'étudier d'une façon superficielle, mais quand on l'étudie d'une façon profonde, on voit qu'on n'est pas d'accord. Il y a une autre vision, chacun il a sa vision. Ça ne va pas dire que surtout on a notre vision. Mais c'est normal qu'on voit différemment les choses. On invite les gens de voir les choses autrement. Donc alors, d'une part, comment dire, encourage les différences. Et il y a beaucoup de choses à dire pour montrer que c'est vrai. Mais il est marqué aussi dans le Pirkei Avot, Vet Vaev Besofa, il est marqué dans la Torah, mais on l'explique comme ça, que cette différence va amener finalement à l'union. Parce que cette différence, c'est une différence, on peut dire peut-être technique, mais en vérité, ce n'est pas le bon mot qu'on peut utiliser. C'est les différences qui unissent. Parce que dans notre vie, on peut voir, et malheureusement, on peut le voir avec les différentes choses qui se sont passées récemment, qu'il y a l'union qui amène à la division, et il y a la division qui amène à l'union. Je ne veux pas détailler par rapport à certaines choses, mais chacun peut réfléchir de quoi il s'agit. Il y a parfois où on en dit, on est tous pareils, et il faut ce qui est vrai quelque part. Mais on fait des biens, on encourage les gens qui veulent faire du mal, parce qu'on est gentil, parce qu'on est ouvert, parce que... Et finalement, cette ouverture, qu'elle est naturelle, qu'il y a certains peuples qui ont cette gentillesse naturelle, ou bien dans leur identité nationale, qu'il faut être tous pareils. Mais si on remarque que le fait d'être pareil, parfois, peut développer des différences plus tard, donc alors cette notion qu'on est pareil développe des différences, ça c'est très grave. Par contre, parfois on est dur, comme dans l'éducation de nos enfants, si on peut dire, c'est plus facile de donner cette image, que quand les parents ils sont très très doux avec leurs enfants, ça peut marcher, mais souvent ça ne marche pas. Il faut savoir, dans l'éducation, c'est tout un monde, il faut apprendre les parents à éduquer leurs enfants, bien sûr. Mais parfois, quand on est trop doux, ça arrive, on laisse tout passer. Alors à ce moment-là, ça arrive plus tard à la division. Par contre, quand on n'est pas d'accord, on bloque certaines choses. Donc quelque part, l'acte, c'est de diviser, de ne pas être d'accord, de parfois se fâcher. Mais ensuite, c'est ça qui amène à cette dynamique ou bien à cette stabilité. Et à ce moment-là, le contraire, c'est les différences, et c'est les, quelque part la rigueur qui amène à cette dignité, à cette union. Donc alors très souvent, on voit des gens de paix qui mènent, peut-être ils ont de bonnes intentions, mais qui mènent, le résultat, c'est un petit peu déplacé, donc ça mène à une mauvaise résultat, à une guerre. Il y a parfois la guerre qui mène vers la paix. Mais ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a la notion de différence. Et la différence, c'est Dieu qui l'a créée. Donc on est différent de nature, on ne peut pas faire autrement. Et plus que ça, les différences, il faut développer. Mais le but des différences, c'est que finalement, on trouve après les différences comment chacun il peut aider l'autre. Ça veut dire que d'une part, il faut multiplier les différences pour finalement qu'il y aura un monde uni. Ça veut dire qu'on est différent et justement, finalement, on trouve comment là, il peut aider l'autre, comment malgré les différences, on est uni, etc. Ou bien sûr que ce n'est pas simple, mais c'est évident. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont très différents, mais ils marchent en harmonie dans tous les domaines de la vie. On a cette notion, il y a beaucoup de détails. Ensuite, on arrive à cette harmonie. En tout cas, alors, revenons à cette idée de Korach, puisque c'était un homme très intelligent et un homme de très haut niveau, au niveau spirituel. Il était bloqué au niveau des différences, puisque dans le judaïsme, il y a beaucoup de différences. On pénètre dans tous les détails, et tout détail est important. Donc alors, encore une fois, ça c'est juste une façon de voir les choses, parce qu'on peut le voir d'une autre manière. Comme on a dit tout à l'heure, qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il veut, d'une part, on le mentionne comme un homme de différence, c'est l'exemple de celui qui n'est pas d'accord, qui crée la zizanie, Mais d'une autre part, quel était son argument? L'union, on est tous pareils. Donc, alors, ça, c'est l'exemple que l'union amène à la division et parfois la division qui mène vers l'union. On a expliqué que Don San Hedén, il était, puisqu'il était de très haut niveau, donc la division était très fort en lui, que la division elle-même, c'est très nécessaire et très basique dans le judaïsme et dans le monde en général, mais il ne faut pas rester là. Il faut voir le but. Ça veut dire, le but de division, c'est l'union qui vient après. Comment le monde, avec ses différences, il réagit ensemble, il, comment dire... En tout cas, on a le monde qui tourne ensemble avec ses différences. Alors, c'est ça l'idée, encore dans le judaïsme, on a parlé au niveau intellectuel, mais aussi à tout niveau. Il y a des hiérarchies, effectivement, il y a ce que le rôle est ça, il y a ce que le rôle est différent. Et dans la paracha, dans les parachas d'avant, on voit que Dieu il dit, ce qui fait ça, qu'il ne fasse pas ça, et ce qui fait ça, il ne fasse pas ça. Korach, il voit en ça une notion de division qui n'est pas nécessaire, mais il ne comprend pas qu'au contraire, c'est ça qui amène à l'union. Donc, il essaye d'amener l'union, mais il ne comprend pas que pour arriver à l'union, il y a l'idée de différence. Alors là, il y a quelque chose qui est un peu difficile ici, parce qu'on dit deux arguments qui sont opposés, mais encore, c'est un long sujet qu'il faut rentrer et comprendre exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a du mal exactement à comprendre ce qu'il veut finalement. Mais en tout cas, ça c'est l'idée de très général que Korach, puisqu'il était un homme de très très haute qualité, il a été dans le monde de la division et donc à ce moment-là, il a eu du mal à voir comment la division même mène vers l'union. Mais finalement, c'est ça l'idée générale, comme si vous prenez l'exemple de beaucoup de choses, que quand vous créez quelque chose, il y a une harmonie, il y a des différents détails, mais on arrive à faire une harmonie entre les différentes choses, donc ça devient quelque chose entier. Là aussi, ça c'est la vision du judaïsme, on est dans un monde très différent, et que parfois on n'est pas d'accord. Et parfois, on dit que ne pas être d'accord, c'est le contraire, c'est bien. Moi, je ne suis pas d'accord et je dois garder mes opinions. Et pourtant, il faut savoir cohabiter. Parfois, on n'a pas le choix, on passe par des moments difficiles, mais ce n'est pas ça le but. Et c'est pour ça que, finalement, le judaïsme, d'une part, elle parle de division, et d'une autre part, le but du judaïsme, et ça, c'est le but messianique, c'est la paix qui va s'instaurer dans le monde. Et on peut le voir par-ci et par-là même aujourd'hui. Donc, puisque ce dimanche, on va célébrer ce que certains appellent Hiloula du Rabbi, le Rabbi de Lubavitch, sa Torah, ses explications, sa vision du monde. Il a beaucoup travaillé sur cette notion, division et unité. D'une part, pousser à l'homme, à chacun, à se développer au maximum et à donner le maximum de soi, mais d'une autre part, savoir comment on fait un seul peuple d'une part, une seule peuple d'une part, et un monde entier d'une autre part, les différences et l'union. Et c'est ça le monde donc messianique qu'on attend très prochainement. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.